Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC pour le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1, la 33e journée. C'est le plaisir de fin de saison, c'est multiplex. Donc pour terminer cet exercice et notamment la fameuse course à l'Europe qu'on va détailler dans quelques secondes, on va aller sur les différentes pelouses des 8 matchs de Ligue 1 qu'on va vous commenter à partir de 21h avec nos envoyés spéciaux. D'ici au coup d'envoi, les infos compos, les analyses d'avant-match avec Kevin Diaz de la Dream Team qui nous accompagne comme tous les dimanches soirs. Salut Kevin.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
La course à l'Europe, le titre, même si le PSG ne peut pas être mathématiquement champion ce soir, la course au maintien également et plutôt à la place de barragiste, c'est l'enjeu donc de cette soirée, la 33e journée de Ligue 1, plus le classico entre le Barça et le Real. On va se régaler, c'est parti. Et on va commencer par aller sur les pelouses pour donner un maximum d'infos, compos d'équipe pour donc cette soirée de Ligue 1. On va commencer par le choc pour l'Europe entre Monaco et Lille. À Louis II se trouve Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, bonsoir à tous.
Qu'est-ce qu'on doit retenir des compos des deux côtés tout d'abord?
Bah alors, un changement effectué par Sébastien Pocognoli par rapport au 11 de départ monégasque qui s'était imposé le week-end dernier difficilement à Metz. C'est la sortie de Paul Pogba qui sort du 11 et retrouve une place sur le banc. Il est remplacé poste pour poste par le jeune Aladji Bamba formé à l'AS Monaco. Sinon, c'est du classique avec Zakaria le capitaine en défense, avec Akliouche et Golovin en soutien de Balogun en attaque. Et côté Lillois, le choix de la continuité pour Bruno Genesio qui aligne le même 11 que lors des deux derniers matchs face au Paris FC. La victoire et le nul face au Havre le week-end dernier, avec donc toujours l'homme en forme, Mathias Fernandez-Pardo en pointe et Olivier Giroud qui démarre sur le banc.
Bon, là c'est vraiment deux équipes lancées donc dans la quête européenne. Je rappelle la situation au classement pour ces deux équipes. Donc Lille est quatrième avec 58 points, 2 points de retard sur Lyon. Donc actuellement Lille est en Ligue des Champions mais par le tour de barrage. Lille a 2 points d'avance sur Rennes et 4 points d'avance sur Monaco. Donc tout l'enjeu pour les monégasques, c'est de raccourcir cet écart à l'issue de cette soirée. Deux équipes qui ont montré des visages très différents, Kevin, donc c'est dur d'avoir une lecture sur ce match, non?
Ah, c'est sûr que c'est très très compliqué. De toute façon, parier de tout court sur le foot, c'est pas facile. Mais alors en Ligue 1, sur les dernières semaines, faut quand même s'accrocher. Je pense à nos amis les parieurs.
On va le faire dans une seconde d'ailleurs.
Ouais. Mais franchement, c'est très très difficile. Je vois quand même. Allez, si tu me demandes, je vois quand même Lille pouvoir accrocher l'AS Monaco. Maintenant, te dire qu'ils vont aller gagner, ça va être en fonction des faits de jeu, ça va être en fonction aussi de l'état de forme, parce qu'on a vu ces Lillois un peu par phase, un peu comme les Lyonnais là, sur des séries très positives mais également sur des séries très négatives. En tout cas, pour l'instant, ils sont plutôt bien.
On va faire les paris sur ce match donc tout de suite, on y va.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guillet de la rédaction des Paris. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous.
Bon, ça doit être équilibré en plus comme cote.
Plus qu'équilibré, c'est la même cote pour les deux équipes. De 45 pour Monaco, de 45 pour Lille. Le nul est à 3,65. Et comme par principe, je ne parie jamais la même chose que Kevin Diaz, je vais plutôt partir sur Monaco qui s'impose avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 3,90.
Ouais, Kevin, il est capable de faire l'analyse sur Lille, mais de donner quand même la victoire de Monaco.
Alors, puisque t'as parié sur la victoire de Monaco, Yoann Guy a parié sur la victoire de Monaco, oui. Et bien sûr, par principe, vu que c'est un très très bon parieur quand même, je vais quand même conseiller aux Afteriens d'absolument faire le contraire.
C'est-à-dire
Lille qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.
Ah, si on part sur Lille qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,10.
Très bien, bon, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout.
Bon, allez, on prend rmcsport.fr pour les conseils de la Dream Team.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et juste un mot sur l'ambiance, Maxime, à Louis II. Il y a encore les banderoles, Scouro, direction dehors, tout ça, ou pour la dernière journée?
Pas déployé. Pas déployé pour le moment, mais c'est le message global toujours le même de la part des ultras monégasques qui demandent encore et toujours la démission de la direction. Bon, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de banderole.
Très bien. À tout à l'heure, 21h pour le coup d'envoi de Monaco-Lille. L'équipe qui peut jouer gros ce soir, c'est Lyon à Toulouse. Puisque Lyon, ce soir, en imaginant que Lille ne batte pas Monaco, et bien si Lyon gagne à Toulouse, Lyon validerait son retour en Ligue des Champions 7 ans après et avant même la dernière journée. Toulouse-Lyon, ce sera avec Romain Amalric ce soir. Salut Romain.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, bonsoir à tous.
Donne-nous les infos compos d'abord.
Alors les infos compo du côté de Lyon, il n'y a pas vraiment de surprise dans la composition de Paulo Fonseca avec Dominique Greff dans les buts, la défense à 4, Maitland-Niles, Mata, Niakate, Abner, au milieu de terrain Morton avec Corentin Tolisso, Kalis Mera en rôle de numéro 10 en gros, Hendrik et Moreira les offensifs sur les côtés et Yaremchuk en pointe côté lyonnais, côté toulousain là aussi il n'y a pas de grande surprise si ce n'est que c'est Russell Rowe qui est préféré à Emerson pour débuter sur la pointe de l'attaque, Bo et Hidalgo pour l'encadrer sur l'aspect offensif, Vossa avec Caceres au milieu de terrain, Metali, Donum pour les pistons sur le côté, la défense à 3, Nicolas Hyssen, Cresswell, Mackenzie et évidemment Guillaume reste dans les buts.
Toulouse qui est donc dans ce championnat avec Lorient, le Paris FC, Brest, des équipes qui n'ont plus rien à jouer pour les deux dernières journées. Donc voilà.
C'est le championnat pour rester dans la colonne de gauche. Ou pour entrer dans la colonne de gauche, comme disaient les Belges et les Néerlandais.
Ou bien réussir sa dernière à domicile. Ça peut être une démotivation pour les Toulousains.
Et surtout qu'à domicile, ça s'est jamais trop bien passé pour les Toulousains qui sont plus efficaces à l'extérieur qu'à domicile. Hein. Sur les 11 victoires, il y en a 6 à l'extérieur, seulement 5 au stadium.
Après, ça peut donner un match spectaculaire quand même. C'est ça. Deux équipes qui ont envie de.
Et Lyon, c'est quand même fort en ce moment. Hein. On a fait le match ensemble contre Rennes la semaine dernière.
Ouais, Lyon est dans sa période de victoires consécutives.
C'est ça.
C'est pile ou face.
Et c'est ça. Lyon, c'est donc 13 victoires de suite, 9 matchs sans victoire. Et donc là, tu l'as dit, 4 victoires de suite. Donc c'est la bonne série pour les Lyonnais qui finiront contre Lens lors de la dernière journée. Merci Romain, à tout à l'heure. Les deux autres équipes concernées par l'Europe, c'est Rennes tout d'abord. Rennes qui reçoit le Paris FC. Xavier Grimaud est sur place. Salut Xavier.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, salut tout le monde.
Bon là, il n'y a pas trop à réfléchir, il faut gagner.
C'est ça, faut gagner parce que en espérant que peut-être Lille gagne à Monaco, ce qui mettrait Monaco hors de portée, assurerait au moins le top 6 pour les Rennais. Il y a encore un petit coup de collier à mettre hein, malgré tout, parce que Marseille par exemple, en gagnant ces deux matchs, passerait devant Rennes à la fin de la saison, même si Rennes gagnait ce soir, puisque le dernier match ce sera un très agréable à suivre, en tout cas très attendu, Marseille-Rennes au Vélodrome pour la 34e journée. Donc il faut gagner face au Paris FC. On se demandait si le Paris FC serait un petit peu en vacances. En tout cas, il y a des changements dans la compo de Camboire. Et je vais commencer quand même par la compo rennaise avec des surprises. Malgré tout, on passe du 4-4-2 au 4-3-3 pour Francaise. Il y a Lilian Brassier qui se retrouve sur le banc. Ça, on s'y attendait pas forcément. On s'attendait à ce que Rouault retrouve une place de titulaire, mais plutôt à la place d'Aïd Boudlal qui avait été un petit peu dilettante, on va dire, sur ses derniers matchs. Eh bien, c'est Brassier qui sort du 11. Naguida est là sur la droite. On s'y attendait à la place de Seydou qui était en difficulté à Lyon notamment. Et c'est Mbolo qui sort du 11 parce qu'il n'y a plus qu'un seul attaquant de pointe, ce sera le Paul évidemment, qui d'autre. Et c'est Simanski donc qui sera titulaire avec le retour de Blas également. Il était sur le banc à Lyon. Du côté du Paris FC, il y a des surprises quand même, hein, puisque notamment Mounetsi est sur le banc, tout comme Moses Simon, tout comme Immobile par exemple. Donc c'est Jebels qui sera à nouveau à la pointe de l'attaque. Ilan Kebal est titulaire derrière lui. On aura collé au chaud notamment, et Pierre Lesmelou, le capitaine du Paris FC, qui est de retour de suspension. Voilà à peu près pour les principales, on va mettre la conjugaison comme il faut, principales infos compo.
Et il fait quel temps ?
Il fait pas beau.
Il
fait
pas beau du tout. Endroit, donc je me dis en Bretagne.
Ouais, non, il pleut. Il y a eu des gros orages, notamment la nuit dernière. Là, ça tourne pas l'orage, mais par contre, la pelouse est bien arrosée. Là.
D'accord.
Là, okay. Très bien arrosée.
D'ailleurs, sur les différentes pelouses, là, je pose la question un peu à la volée pour tout le monde. Il n'y a pas de menace de coup d'envoi décalé ou de vu les trompes d'eau ? Non.
Non, non, non.
Bon, très bien.
Les pelouses sont bien drainées maintenant, tu sais, Jean-Louis. Hein.
Oui, oui, oui.
c'est notamment grâce à la nouvelle technologie de la pelouse hybride. Ouais. Qui permet donc de poser pour nos auditeurs, ça peut les intéresser. En fait, là, c'est les pelouses naturelles qui sont posées sur notamment un gros tapis de sable et du béton qui améliore le drainage avec morceaux de pelouse synthétique très très fins qui permettent le drainage vers l'herbe jusqu'au sable.
Très bien. Donc vous me dites qu'il n'y aura plus jamais de match reporté vu la modernité des pelouses.
C'est très très rare. Il faut vraiment.
Ou de coups d'envoi décalé en tout cas.
Il faut vraiment qu'il y ait des
petite info, Jean-Louis, à Toulouse. Oui. En l'occurrence, alors c'est pas forcément sur la qualité de la pelouse ou le niveau d'eau, mais il y a eu de gros éclairs pendant l'échauffement des joueurs. Et donc on a eu un petit doute. Je vous en ai pas parlé parce que maintenant ça s'est calmé. On a un petit doute sur le fait que le match commence vraiment à l'heure. Et Monsieur Deschépi aurait pu prendre en effet la décision en cas d'éclair d'orage un peu conséquent, en effet, de décoller l'horaire du match. Mais là, on est passé sous très très gros orage. Mais là, comme c'est passé, en théorie, on devrait être dans les temps.
Très bien. A priori, donc pas
mais
de
la pelouse est bien arrosée, du coup. Je vous assure.
Elle est bien arrosée, bien drainée. Donc très bien. Merci Romain. On finit notre tour des stades européens. Bah au Havre. Là, c'est peur sur la ville. Le Havre Marseille, Christophe Lécuyer sur place. Salut Christophe.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, bonsoir à tous.
Peur sur la ville, t'auras compris, pas pour Le Havre. Même si, attention, il n'y a que 4 points d'avance avec Auxerre, le barragiste. Pour les Havrais, le maintien n'est pas encore assuré à 100%. Mais c'est surtout pour Marseille. On en a beaucoup parlé cette semaine improbable pour les Marseillais. La mise au vert à la commanderie, l'embrouille, le dérapage d'Aubameyang qui est suspendu. Du coup, quel compo Habib Bey a-t-il aligné?
Eh bien, 4 changements dans le 11 de départ d'Habib Bey suite à la déroute nantaise, avec déjà un changement de gardien puisque Geoffrey Delange ne sera pas dans les buts ce soir. Retour de l'Argentin Jeronimo Rulli donc dans les buts de l'Olympique de Marseille. Alors des changements parfois contraints et forcés, Vermeeren est sur le banc, Traoré qui s'est blessé à Nantes n'est pas du voyage, et puis Pierre-Emerick Aubameyang non plus, mais pour d'autres raisons, on vient de l'évoquer. Ça nous donne donc dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille ce soir Rulli dans les buts, une défense à 4 avec Emerson Medina, Balerdi et Pavard. Højbjerg aura le brassard de capitaine ce soir avec Nadi au milieu de terrain. Un milieu de terrain donc renforcé avec 3 joueurs à vocation plus offensive, avec évidemment Greenwood, Timber et Pechao. Et puis c'est Guiri qui sera à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille ce soir pour ce match. On l'a dit, ô combien important évidemment pour les Marseillais, mais qui n'auront pas la partie facile parce que tu l'as bien dit Jean-Louis, évidemment, il y a aussi une pression du résultat du côté du Havre avec cet objectif maintien à ficeler dès ce soir.
Exactement. Il y a des trucs d'ailleurs dans la compo havraise à retenir.
Un seul changement dans le 11 de départ de Didier Digard, c'est le retour du capitaine Aruna Sanganté, retour de suspension. Il va retrouver sa place dans la défense de Havraise ce soir. Et puis pour le reste, pas beaucoup de surprises. Soumaré et Samata seront associés à la pointe de l'attaque normande ce soir.
Et un avantage avec l'OM ces derniers temps, Kevin, c'est qu'on va vite voir dès le début du match s'ils ont lâché totalement ou pas. Tu vois ? Ça se voit vite, non ?
Alors, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas à cette notion de lâcher ou pas lâcher. Je crois en effet qu'il y a une équipe qui est en grande difficulté, qui a des individus qui sont en grande difficulté, un club qui est en grande difficulté. Mais je crois pas du tout qu'un joueur professionnel décide de lâcher, qu'il ait plus les ressources et qu'il n'arrive plus. Ça arrive dans les burn-out, une forme de burn-out. Quoi. Le mec n'arrive plus à jouer ensemble, n'arrive plus à faire les efforts. C'est ce qui se passe notamment dans les équipes qui finissent par descendre alors qu'ils étaient programmés comme Tottenham, peut-être pour jouer l'Europe, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par contre, que tu peux voir dès le début de match si les joueurs sont dans leur rencontre, s'ils mettent l'intensité nécessaire. Mais ce qui se passe aussi, parce qu'à Nantes, ok, c'était pas terrible, mais jusqu'à ce qu'ils prennent le premier but, disons qu'ils sont dans le match.
C'est correct, ouais.
Et après, c'est quand t'as la première adversité, quand t'as le premier coup sur la tête, c'est là où c'est plus difficile.
On va revenir dans une seconde. Merci Christophe. À tout de suite pour le Havre Marseille, 21h, le coup d'envoi. Les autres enjeux de la soirée, là, on a fait long sur la course à l'Europe, c'est le truc qui est le plus passionnant. Et encore le titre pour le PSG qui doit battre Brest, et puis le match peut-être pour le barrage entre Auxerre et Nice. On va sur ces pelouses dans quelques secondes sur RMC, sans oublier le classico entre le Barça et le Real à partir de 21h. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
20h46, on est à moins d'un quart d'heure maintenant du coup d'envoi de ce multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1 avec Kevin Diaz. On va se régaler bien sûr puisqu'il y a 8 matchs de Ligue 1. Monaco-Lille, Toulouse-Lyon, Le Havre-Marseille, Rennes-Paris FC, PSG-Brest, Auxerre-Nice, Angers-Strasbourg, Metz-Lorient, plus le classico entre le Barça et le Real, et un match de top 14 entre le Racing et La Rochelle. On sera sur toutes ces pelouses sur RMC pour cette soirée magnifique. On est sur RMC bien sûr à la radio, on est aussi sur After Foot TV, disponible sur les téléconnectés, sur la page YouTube de l'After également, si vous voulez suivre donc cette soirée sur vos télés. On a donc fait la course à l'Europe à l'instant. On va faire l'un des enjeux, c'est quand même le titre. On le banalise un peu parce que le titre semble le promis au PSG, mais il faut quand même battre Brest ce soir, et Valentin Jamin est au parc. Salut Valentin.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Et comme à chaque match d'après en Ligue des Champions, Luis Enrique a fait tourner.
seulement deux titulaires du match face au Bayern Munich sont de nouveau sur la pelouse, Marquinhos et Fabian Ruiz. Alors il faut commencer par signaler qu'il y a des blessés ou des joueurs qui ont des petits pépins, donc qui ne sont pas dans le groupe. C'est le cas d'Achraf Hakimi, de Chevalier, Zaïre Emery, Pacho, Nuno Mendes sont préservés ce soir. Et donc hormis Marquinhos et Ruiz, on a neuf changements. Même dans la cage, Renato Marin va garder le but parisien ce soir, comme il l'avait fait en championnat face à Lorient la semaine dernière. La charnière Marquinhos, Zabarni à gauche, Lucas Hernandez à droite, c'est donc Seni Mayulu qui devrait occuper ce poste de latéral droit. Beraldo comme souvent au milieu de terrain récemment, avec donc Ruiz et Dro Fernandez. Bradley Barcola a retrouvé une place de titulaire comme très souvent en Ligue 1, à gauche de l'attaque, à droite Kang In-Lee, et en pointe Gonzalo Ramos.
Bon, Kevin, a priori, même avec ce turnover, le PSG a de la marge contre une équipe un peu en vacances.
Oui, le PSG a certes de la marge maintenant. Tu me disais, oui, il y a quand même, il faut quand même en parler. Il y a quand même le titre.
Ah oui.
Non, mais honnêtement, je suis désolé, mais je vais pas faire mon Daniel Riolo.
Non, mais après,
on est arrivé quand même dans une Ligue 1 où le titre, ça n'intéresse plus personne. Non,
là où je souris, c'est que le PSG est pas encore mathématiquement champion, ouais. Et on commence pas par ça, tu vois. Notre Ligue 1.
Non, mais c'est sûr, je suis complètement d'accord. Et ce qui est vraiment très très surprenant, c'est que cette équipe où t'as quand même des joueurs, là, Mayulu qui va jouer arrière droit, t'as des joueurs qui jouent pas à leur poste comme Beraldo, t'as des Lucas Hernandez qui sont plus des porteurs d'eau que vraiment des joueurs impliqués, même si bon ils participent quand même. T'as un gardien qu'on découvre là depuis quelques matchs, mais en fait tu penses qu'ils vont gagner quand même, et assez facilement. Ouais. Alors ils n'ont pas fait contre Lorient, mais tu penses quand même qu'ils vont gagner assez facilement, quoi.
Eh oui, c'est ça.
J'aimerais pas être l'adversaire en face, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, il y a des trucs à dire sur la compo brestoise.
Oui, Chardonnay est forfait de dernière minute, on va dire, blessé aux côtes. Et en fait, en défense, ils sont un peu décimés, les Brestois. Bradley Loco est blessé, Soumaïla Koulibaly est blessé et Kenny Lala est suspendu. Donc on a dû refaire une défense avec le jeune Raphaël Le Guen, 19 ans, formé au club, qui est titulaire pour la deuxième fois de sa carrière. La dernière fois, c'était la semaine dernière, 4-0 contre le PFC. Il fera la défense avec Junior Diaz et Guindo. Normalement, ils seront trois. Et puis en attaque, Doumbia, Ajork et Touza et Del Castillo, pardon. Voilà ce qu'on peut retenir de l'équipe de Brest qui n'a pas gagné un seul de ses six derniers matchs.
Très bien. Merci Valentin. À tout à l'heure pour le coup d'envoi. Le match de la peur, le match peut-être du futur barragiste, c'est entre Auxerre qui est 16e avec 28 points et Nice qui est 15e avec 31 points. Donc 3 points d'écart entre les deux et la différence de but est pour Auxerre. Donc si Auxerre bat Nice, eh bien Auxerre quitte cette place de barragiste ce soir. Fred Joly est à la Baie des Champs. Salut Fred.
Salut Jean-Louis et Kevin, bienvenue à la Baie des Champs.
Bon, les Auxerrois l'avaient couché depuis un moment ce match-là, non ?
Ah oui, bah oui, oui, oui. Bah là, de toute façon, il fallait déjà dans un premier temps s'imposer face à Angers pour espérer se rapprocher de Nice à 3 points. Donc ce soir, c'est simple, si les Auxerrois veulent espérer décrocher une place en direct en Ligue 1 pour la saison prochaine, lors du dernier match, il faut s'imposer face à l'OGC Nice. Voilà les données du côté des hommes de Christophe Pelissier.
Les compos.
Alors du côté de Nice, on va apparemment proposer par Claude Puel un 5-4-1 avec Diouf dans les buts, une défense à 3, Opang, Bamendi, Klose à droite, Barre à gauche, milieu à 4 avec Abdoul Samed Boudaoui, Morgan Sanson Diop et puis Mohamed Ali chaud devant. Du côté de la JOCR, le retour de Léon dans les buts, il a manqué 2 rencontres, il s'était blessé lors du déplacement à Monaco. Oko qui avait une petite incertitude petit problème à la voûte plantaire est bien présent dans la défense auxerroise aux côtés de Diomandé dans la charnière. Mensa à gauche, Si à droite, Amada Owuzu danois dans l'autre jeu, et puis Namaso à gauche, Sinayoko à droite, Mara à la pointe de l'attaque. Peu de changements, pas de changements du côté de la JOCR, si ce n'est le retour de Léon dans les cages bourguignonnes.
Très bien. T'as fait les deux là ? J'ai un doute là sur. Oui, ou t'as pas fait Nice ?
Bah oui, j'ai fait les deux.
Ah, excuse-moi. Ah, si j'ai fait Nice. À force de t'entendre depuis si longtemps, Fred, parfois je me perds.
C'est ça, j'ai commencé, on m'écoute plus. On dirait ma femme qui ne m'écoute plus.
Kevin, comment tu vois ce match entre Auxerre et Nice ?
Ah, écoute, c'est vrai que ça va être un match délicat. Hein. Je pense que là, il y a quand même très très peu d'écart en classement. Et donc, tu sais que si Auxerre gagne, derrière, tu te rends compte que Nice pourrait jouer une finale de Coupe de France et derrière peut-être un barrage pour la Ligue 2.
C'est le scénario Reims de l'année dernière. Exactement.
Face à l'AS Saint-Etienne, donc face à un gros club de Ligue 2.
Non, pas forcément.
Ouais, ce sera.
C'est vrai
qu'il y a des pré-barrages. Mais disons qu'il y a de grandes chances que ce soit contre l'AS Saint-Etienne, ce qui ferait quand même un gros match. Ils se sont déjà joués en Coupe de France d'ailleurs, je crois, mais c'était à huis clos. Donc voilà. Mais ouais, c'est un match vraiment. J'aimerais pas le jouer ce match. Hein.
Donc ce sera le match sans doute pour le barragiste. Merci Fred, à tout à l'heure. Il y a une équipe quand même qui n'est pas encore mathématiquement sauvée, donc on va être précis, hein. On l'a été avec le PSG qui ne peut pas être champion ce soir même en cas de victoire. C'est Angers qui n'est pas encore sauvé, mon cher Pierre-Yves Leroux. Angers qui reçoit Strasbourg.
Exactement, faut pas les oublier.
6 points d'avance pour Angers sur Auxerre. Donc faudrait perdre les deux matchs, qu'Auxerre gagne les deux. Bon, faut rien exclure, mais bon.
Oui, et si on exclut vraiment rien, on se dit que Strasbourg peut encore être européen aussi. Parce qu'il y a un scénario où c'est possible.
C'est vrai.
Si les Lensois gagnent la Coupe de France et que Strasbourg réussit à finir 7e.
Bon, là aussi. Parce que Strasbourg a un match en moins.
Exactement.
Comme le PSG Lens. Voilà, ce sera contre Brest.
Tout à fait. Exactement, ça sera contre Brest. Ça sera d'ailleurs un Brest-Angers également pour les Angevins la semaine prochaine. Des Angevins qui sont sur une très mauvaise série. 8 défaites, 2 nuls en 11 matchs. Une seule victoire, c'était face à Nantes, le voisin, le 7 mars, depuis le 8 février. Ce soir, c'est un peu l'esprit plus à la fête aussi. Il faut aller chercher un point, évidemment. Mais il y a aussi l'hommage aux deux anciens, Pierrick Capel et Abdoulaye Bamba, 39 et 36 ans, qui vont prendre leur retraite. Puis du côté strasbourgeois, même si je vous disais, il y a encore un petit espoir d'Europe. Il y a surtout beaucoup, beaucoup d'absents. Barco qui est de retour de blessure n'est pas dans le groupe. Nanassi est malade. Anselmino, Emega, Fofana, Panicelli sont blessés. Et on va d'ailleurs, il y a aussi deux suspendus, Omo, Bamidele et Morera. Et on va retrouver Yaya Dieme pour sa deuxième apparition à la pointe de l'attaque du côté strasbourgeois. C'est la petite surprise de la compo du côté de Gary O'Neill. On le rappelle, hein, les Strasbourgeois sortis par le Rayo Vallecano en demi-finale de la Conference League, sortis également de la Coupe de France. Donc il n'y a plus d'espoir d'Europe par les coupes. On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Et pour Angers, il faut aller chercher ce petit point.
Merci Pierre-Yves, à tout à l'heure. Non, en revanche, là où je suis sûr de moi, c'est que Metz-Lorient, il n'y a vraiment aucun enjeu sur ce match. Entre Metz qui est sûr d'être dernier, Lorient qui ne peut rien espérer ni en haut ni en bas, mais on est quand même sur place avec Patrick Muller. Salut Patrick.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, et bienvenue.
Salut Patrick.
Faut penser aux joueurs de MPG par exemple, faut penser aux parieurs, faut penser voilà à tous ces gens-là, parce que pour le sportif, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque pour les Messins, c'est acquis depuis la semaine dernière. Sans grande surprise, ils évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, et ce sera la 12e fois de l'histoire du club et la 8e ou 9e fois peut-être même depuis 2002. C'est-à-dire l'instabilité effectivement de cette équipe messine. Et en face, bah, du côté de Lorient, ambiance fin de cycle, hein, puisque Olivier Pantaloni va s'en aller, lui qui a fait remonter cette équipe, qui était promu, qui termine à une très très belle, pour l'instant, 9e place en tout cas, qui a 42 points. C'est une belle réussite, mais il ne sera pas dans le projet saison prochaine, et il devrait discuter avec les dirigeants du FC Metz tout simplement pour reprendre l'équipe la saison prochaine en Ligue 2.
Ah oui, ben voilà, c'est l'occasion, il se voit, donc ça tombe bien. Il y a des trucs à dire sur les compos vite fait.
Eh ben, ambiance fin de cycle à Lorient, hein, clairement, puisque Pablo Pagis et Bamba Dieng ne sont pas alignés. Les deux joueurs qui comptent respectivement 10 et 9 réalisations cette saison ne seront pas l'orientés la saison prochaine. Il reste un an de contrat à Pablo Pagis, qui a réussi une super saison et qui va s'en aller. Bamba Dieng également, ils ne sont pas alignés donc par Olivier Pantaloni. Bon, okay. On va se dire que c'est tentant de faire ce raccourci en se disant que ils sont plus impliqués dans le projet, donc ils n'évolueront pas pour cette avant-dernière journée.
Très bien. À tout de suite Patrick pour le coup d'envoi de ce Metz-Lorient. Les 8 matchs de Ligue 1 plus le Classico Barça-Real. Edgar Grollo était dans Bartoli Time tout à l'heure, donner des infos compos, la présence de Tchouaméni notamment au coup d'envoi. Mbappé est forfait. On suivra ce match en plus des matchs de Ligue 1, puis il y a le rugby également, le match de Top 14 entre le Racing et La Rochelle. Coup d'envoi de toutes ces rencontres, l'avant-dernière journée de Ligue 1 dans quelques secondes sur RMC. Restez avec nous, à tout de suite.